Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission Et si on en parlait, votre émission de débat et d'information en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine dans l'émission, nous avons décidé de parler, une fois n'est pas coutume, de l'élection présidentielle et plutôt de la manière dont la campagne se déroule. Même certains parlent d'une non-campagne, d'autres évoquent une drôle de campagne, comme on parlait de la drôle de guerre en 1939-40, quand la guerre était déclarée mais qu'il ne se passait rien pendant des mois et des semaines. Et finalement, beaucoup de commentateurs et même d'acteurs de cette élection présidentielle s'interrogent sur finalement les conditions du débat. Et est-ce qu'il y aura réellement des débats, est-ce qu'il y aura une présentation des projets des uns et des autres qui permettra aux Français d'être éclairés sur les enjeux de cette élection? Et finalement, est-ce que la partie n'est pas déjà gagnée pour Emmanuel Macron? C'est toutes les questions que nous voulons poser à Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonjour.
Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondateur de MCBG Conseil, que vous avez également des activités dans la bande dessinée, vous êtes président des Arènes, et puis vous avez d'autres activités, vous intervenez à Sciences Po et dans différents médias, et c'est surtout pour votre éclairage en tant qu'expert des sujets de communication qu'on a envie de vous entendre dans l'émission aujourd'hui pour nous dire déjà ce que vous pensez des quelques semaines, des quelques mois depuis que la campagne a démarré et surtout depuis le dépôt des candidatures.
Alors, je ne suis pas président des Arènes, les éditions Les Arènes, le président c'est Laurent Beccaria. Par contre, j'ai écrit le président, la BD Le Président.
Absolument, c'est la BD Le Président, oui.
Je dis ça parce que je ne vais pas donner
de faux espoirs.
Un putsch aux Arènes. Alors, sur la campagne, moi je parle d'une non-campagne, je fais partie de ceux qui parlent d'une drôle de campagne, comme Thomas Legrand sur France Inter. Moi, je pense que c'est une bonne expression, la drôle de campagne, au sens où on nous annonce depuis des mois, des années peut-être, il va y avoir une campagne présidentielle et effectivement, il ne se passe rien. Il n'y a pas de débat entre vraiment les candidats, il n'y a pas vraiment d'affrontement, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de thème, très peu, à part le grand remplacement qui a duré assez longtemps parce que Zemmour a fait un lancement de campagne tonitruant. Et puis là, éventuellement, une petite thématique sur les questions de retraite. Mais bon, c'est très timide et l'Élysée l'a lancé surtout pour avoir quelque chose, un os à ronger, disons, pour la presse et pour avoir une espèce quand même de guide dont l'Élysée a besoin pour ses propres besoins finalement de communication. Mais c'est pas vraiment un thème de campagne.
Alors, est-ce qu'aussi l'actualité qui est marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis maintenant plusieurs semaines n'écrase pas aussi un petit peu tous les autres sujets et qu'il y a eu un télescopage d'agenda politique et médiatique qui finalement est écrasé par une actualité internationale qui est quand même assez prégnante dans les esprits de tous les Français et des Européens compte tenu de cette invasion et du retour d'un conflit majeur au cœur même de l'Europe.
Alors, il y a la campagne en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a la Covid qui a beaucoup anesthésié les partis politiques. En fait, le vrai problème, c'est que depuis la Covid, on n'entend plus du tout les oppositions, qui avaient déjà été beaucoup malmenées avec les Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes s'étaient fait hors des cadres politiques traditionnels. On était dans un affrontement, en gros, entre des groupes, des groupuscules, une agrégation, disons, de mécontentement, et le président de la République, sans qu'aucun parti n'arrive vraiment à récupérer la mise, entre guillemets, de ce mouvement-là. On était un peu comme avec la Manif pour tous, face à une agrégation de mouvements très très nouveaux, très agressifs, mais sans véritablement pouvoir en sortir avec un capital politique pour un tel ou un tel. Et avec la Covid, on a eu une anesthésie générale. Alors pour le coup, plus aucun parti ne s'est exprimé, donc on avait véritablement une politique sanitaire qui n'était pas débattue, pas contestée, pas amélioré par des propositions éventuelles, c'était un vide total. Et sur l'Ukraine, c'est un tout petit peu plus débattu, parce que déjà, il y a une branche des politiques qui sont pro-Poutine, même s'ils n'osent plus trop le dire aujourd'hui. On sait que la sensibilité de l'extrême droite est plutôt d'être pro-russe depuis longtemps, et c'est assez structurant, et continue de l'être aujourd'hui. Et donc on a aussi, on paye aussi aujourd'hui le fait que, à part Emmanuel Macron, personne ne parle de politique dans le pays depuis 4 ans d'une manière audible.
Et donc, est-ce que vous en tireriez comme conclusion, c'est ce que certains n'hésitent pas à faire, que, eh bien, finalement, cette élection présidentielle, elle est déjà pliée, et que par son positionnement institutionnel, par sa capacité aussi à s'exprimer de manière plus régulière et plus conséquente que tous les autres candidats, eh bien, Emmanuel Macron a déjà, d'une certaine manière, fait la différence dans cette élection présidentielle, et que finalement, les quelques semaines de campagne qui restent n'y changeront pas grand-chose.
Alors, on peut penser, l'attitude rationnelle consiste à penser que l'élection est finie, c'est-à-dire que le président sortant est déjà réélu. Ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est d'essayer de comprendre comment éviter d'avoir une situation comme celle-ci à l'avenir, c'est-à-dire comment on peut essayer de préserver le débat démocratique, parce que là, le problème posé, c'est plus tellement celui de la réélection d'Emmanuel Macron, c'est de la préservation d'un cadre démocratique dans lequel on puisse débattre. Et là, c'est vraiment pour moi, le plus gros point d'interrogation, c'est l'avenir de notre démocratie, quoi, pour parler. C'est un peu grandiloquent de dire ça comme ça, mais c'est quand même très vrai. Et la question, c'est: est-ce que des primaires organisées au dernier moment, improvisées avec des semaines de campagne à l'arrache, comme c'est le cas de quasiment tous les candidats, est-ce que c'est encore viable, ou est-ce qu'il vaut mieux pas essayer d'avoir une opposition structurée, c'est-à-dire faire entendre sa voix en permanence, ne pas hésiter à contester les choix du gouvernement, même en période de crise aiguë, parce qu'on n'est pas en dictature, on est dans un débat qui doit avoir lieu, et puis essayer de formuler des propositions, même si c'est pas simple. C'est vrai que la Covid, c'est pas simple à comprendre, c'est vrai que l'Ukraine, c'est pas simple à comprendre, mais le travail consiste quand même, quand on est politique, à essayer de proposer des choses, quoi. Et dans la Covid, ne pas avoir entendu la gauche, par exemple, jamais, à aucun moment, dire que c'est une maladie qui touche les plus pauvres, les familles nombreuses, en priorité les plus fragiles, et que c'est cela qu'il faut défendre et que tout doit être fait pour ça, c'est un discours qu'aucune force de gauche n'a vraiment tenu, parce qu'il y a la peur, la trouille de mécontenter tel ou tel groupuscule anti-vax, qui n'apporte pas une seule voix, mais qui parasite constamment le débat. Donc la question, c'est aussi de retrouver des fondamentaux politiques, donc de savoir pourquoi on se bat, et d'essayer d'être cohérent avec soi-même. Toute cette partie-là est à reconstruire. Et moi, je trouve ça plus intéressant d'imaginer ça, à partir du moment où on considère que le président est réélu et qu'il ne fera pas de troisième mandat, donc on est dans un cadre où on va pouvoir reconstruire, c'est d'essayer de se projeter après l'élection pour voir comment ne pas commettre les mêmes erreurs, comment essayer d'être là, d'être présent. Moi, le signe d'espoir que je vois, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais dans la solidité de Marine Le Pen, je vois un tout petit signe d'espoir, supposé qu'elle soit battue au deuxième tour et que tout se passe entre guillemets bien. Elle a quand même fait une campagne sur la durée. Donc ça prouve que quand on est sur la durée, quand on essaie de construire quelque chose qui est cohérent et qui est d'une certaine façon, dans son cas, apaisé, elle a pas joué la carte de l'hystérie, elle a pas joué la carte de la division, elle a essayé vraiment beaucoup de lisser son image, c'est que cette voie-là de construction d'une image, entre guillemets, parce qu'on parle de Marine Le Pen, dont je ne partage à titre personnel aucune opinion, mais elle a construit une image, disons, plus recentrée, cette voie-là fonctionne. C'est-à-dire qu'au final, même si Zemmour a fait beaucoup de bruit, même si elle va quand même arriver au deuxième tour, a priori, de l'élection présidentielle, avec une stratégie qui est une stratégie de long terme. Et je pense que ça, il faut le regarder, le comprendre à gauche, pour voir ce que ça veut dire qu'une image qui est gérée sur le long terme, dans un souci de rassemblement, en restant cohérent par rapport à des fondamentaux. Je pense que c'est très important que la gauche, qui est plutôt ma sensibilité à moi, regarde ça et essaie de comprendre ce qui se passe.
Alors, vous avez parlé effectivement du paysage politique dévasté, des repères un petit peu brouillés, mais est-ce que finalement ce que vous dites à propos de Marine Le Pen, c'est pas une occasion manquée pour Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu aussi faire ce choix d'être plus central, moins clivant, et qui aurait peut-être eu dans cette condition-là une chance d'incarner une véritable alternative à Emmanuel Macron?
Alors, Jean-Luc Mélenchon, ça aurait pu tout à fait s'appliquer à lui. Il a une possibilité toujours d'être au deuxième tour s'il arrive, dans les dernières semaines, à rassurer les électeurs de gauche, on va dire PS, qui n'ont pas envie de voter Macron, qui n'ont pas envie de voter à droite, en réalité, qui ont envie de voter pour leur sensibilité profonde, s'il arrive à les rassurer, c'est pas complètement évident, parce qu'effectivement, lui, il a joué la carte de la radicalité. Il n'a pas compris, au fait, le capital dont il disposait en 2017, il n'a pas compris ce qui s'était passé pendant l'élection. Il n'a pas vu l'opportunité, là où Marine Le Pen a vu l'opportunité, c'est-à-dire qu'elle a dit, voilà, j'ai un capital, j'ai rassemblé un certain nombre de voix, voilà les défauts que je dois corriger, je vais travailler pour corriger mes défauts, pour pouvoir rassembler davantage. Lui, il en a déduit que l'élection lui avait été volée, donc il a un petit peu fait du Trump, et puis après il a continué à être extrêmement radical, à prendre des positions outrancières qui ont beaucoup déplu, et finalement, au lieu de construire sur sa défaite, il a...
Au lieu de capitaliser, il a dilapidé une partie du crédit qu'il avait réussi à acquérir.
C'est ça, et puis il a pas correctement interprété, au fond, la situation. Après, il peut encore rattraper les choses. Il faut bien comprendre que la disparition du PS, on a fait un film dessus avec Mathieu Sapin et Jean-Pierre Pozzi, donc la disparition du PS, c'est quelque chose qui a un impact assez colossal et qui peut lui bénéficier s'il arrive à envoyer les bons messages. Après, il est un peu alourdi par sa position sur la Russie, dont on sent bien quand même qu'elle n'est pas évidente à gérer pour lui, parce qu'il a été quand même très pro-russe. Encore une fois, la stratégie diplomatique numéro un de la Russie sur les dernières années a consisté précisément à investir, y compris financièrement, pour ce qui concerne Marine Le Pen, dans les extrêmes, pour diviser les paysages politiques, les éclater, les rendre instables, et en retirer les bénéfices politiques.
Alors, je vous poserai deux questions pour terminer. La première, c'est justement, vous l'avez dit, l'éclipse quasi totale du PS, du parti du paysage politique, avec une candidature qui est probablement plus près des 2% que de la qualification au second tour. Mais dans cet espace politique, l'écologie a du mal à se faire une place, alors qu'il y avait peut-être quand même l'occasion justement de récupérer une partie des électeurs du Parti Socialiste et déçus de Macron aussi.
Oui, l'écologie aurait pu tout à fait récupérer les électeurs du PS et les déçus de Macron, absolument. Le problème qu'il y a à l'écologie, c'est que d'une part, ils ont organisé une primaire extrêmement tardive, donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui peut se construire sur le court terme. Il faut arrêter avec ces idées de campagne éclair, on va faire 6 mois de campagne et on est élu. Mmh. On voit bien, là, on a la démonstration sur cette élection, que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut des années pour installer un profil politique, une cohérence, pour parler à l'électorat, pour le convaincre.
Et on pourrait en dire autant de la primaire à droite, finalement.
On peut en dire autant absolument de la primaire à droite. Tout ça, les primaires sont des formes de renoncement. C'est-à-dire qu'on renonce à avoir une bataille.
On renonce au projet, quoi, pour la course des personnalités.
Oui, et puis ça ne plaît pas à l'électorat, forcément, parce que l'électorat, lui, si c'est une question de personnalité, si c'est une course de petits chevaux, il va voter Macron. Le meilleur petit cheval, le meilleur compétiteur dans cette guerre-là, c'est quelqu'un qui est flexible, qui est souple, qui n'a pas vraiment beaucoup, forcément, de centre de gravité, mais qui, dont la qualité, précisément, est de savoir faire campagne, s'adapter, etc. Donc, le mieux placé pour tirer les bénéfices d'une course qui n'a finalement comme intérêt que de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre, c'est Emmanuel Macron qui, lui, sait être, c'est un petit peu comme comme disait, je crois que c'est Verlaine qui disait, il faut être à chaque fois quelqu'un, soi-même et quelqu'un d'autre, pour séduire. Bien, il est à chaque fois lui-même et à chaque fois un autre, Emmanuel Macron. Donc, dans une course comme ça, il a tous les avantages. Et c'est évident qu'on peut pas aller contre ça comme ça. Et l'écologie a un autre problème, c'est qu'il faut intégrer le wokisme, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir une candidature qui n'intègre pas les demandes par ailleurs légitimes et audibles d'un segment de l'électorat de gauche maintenant qui a des problématiques identitaires, qui a des besoins de recours identitaires aussi, qui a envie qu'on change le logiciel pour aller vers davantage de parité. C'est pas davantage de parité, c'est une égalité pure et simple. Et puis une bataille culturelle aussi sur des choses qu'on croyait acquises mais qui ne le sont pas et qui sont peut-être très saines à redébattre. Et au lieu d'être dans une attitude d'union finalement des différentes causes pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi cette génération-là a cette demande-là, plutôt que de l'exclure en faisant une primaire au dernier moment, douloureuse, et en faisant de Sandrine Rousseau, qui de toute façon n'est pas prête à céder quoi que ce soit, une ennemie, on aurait pu imaginer d'avoir un débat un peu plus apaisé, d'avoir une proposition qui intègre ça, en fait de faire une vraie construction politique. C'est pas le choix qui a été fait. Du coup, on a des petites chapelles éclatées qui vont faire 2% et on perd de vue l'écologie, qui devrait quand même être le moteur central, parce que ça devient accessoire, forcément. Si vous allumez au dernier moment une bataille avec un groupe dont l'axe est identitaire, qui est extrêmement déterminé, avec un fort besoin de reconnaissance, vous n'allez finir par parler que de la problématique de ce groupe, et pas du tout de ce pourquoi vous êtes là, qui est quand même l'écologie.
Et donc, vous pensez que finalement, ce que vous décrivez va dans le sens de renforcer finalement les chances du président de la République de ne pas avoir réellement de concurrence ni à sa gauche ni à sa droite, et donc de se retrouver dans un second tour qui serait au final, on peut tenter un pronostic, enfin on peut vous tendre la perche du pronostic, mais ce que vous nous décrivez finalement, c'est l'inéluctabilité d'un second tour bis repetita de l'élection présidentielle de 2017.
Oui, c'est d'une tristesse infinie parce que c'est
précisément... Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, parce que c'est un peu difficile, mais bon.
Mais c'est précisément ce dont les Français, à plus de 70%, enfin, ça varie entre 60 et 75%, ne voulaient pas pour cette élection. Voilà. Ils ne voulaient pas, l'immense majorité de la population ne voulait pas entendre parler de Macron-Le Pen. Bon, résultat, on a réussi dans un pays passionné par la politique, qui vote beaucoup à la présidentielle, à dévitaliser la campagne, donc on n'en a pas. Et ça, c'est une responsabilité de tous les acteurs. On veut bien taper sur Macron, c'est toujours sur lui qu'il faut taper, d'accord, c'est le président. C'est normal, mais il faut quand même qu'on soit un tout petit peu lucide. Cette situation, elle est de notre responsabilité collective. Et on a réussi à dévitaliser la campagne présidentielle, qui est un grand moment français. Et on a réussi à arriver au second tour. On y est presque. Il y a encore des chances pour que ce soit évitable, mais on y est presque au second tour dont personne ne voulait. Donc c'est quand même, tout ça est quand même très très problématique. Et quand on lit dans la presse qu'un ancien président de la République, à quelques semaines du scrutin, envisager de faire une campagne victorieuse, on se dit que vraiment, les gens ne savent plus où ils habitent.
Que quelque chose ne tourne pas rond.
Mais une campagne présidentielle, ça se prépare des années à l'avance. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron communique depuis son arrivée au pouvoir en vue de sa réélection. Il le fait pas parce que ça lui fait plaisir d'être en campagne. Enfin, ça lui fait peut-être plaisir, mais c'est surtout parce que c'est nécessaire. Et ne pas avoir d'opinion, ne pas avoir d'avis sur un événement comme la Covid, ne pas avoir d'avis, même sur les gilets jaunes, et pas être capable d'articuler un discours cohérent sur l'Ukraine, ça disqualifie quand même. Enfin, je veux dire, c'est normal dans ces conditions que les gens veulent reconduire le sortant, vous voyez. Donc c'est la responsabilité des oppositions de s'assumer comme opposition, pas chercher à faire plaisir, être cohérent avec ce en quoi ils croient, et être respectueux des gens, c'est-à-dire pas se comporter comme l'a fait Mélenchon, par exemple, de manière ultra-agressive, parce qu'il y a une perquisition chez lui. C'est pas possible. Et ça lui a coûté énormément en termes de crédibilité. Ça s'est joué en quelques minutes.
Et oui, de l'importance de la communication et de l'image en
de
politique.
De l'importance d'être constant, comme disait Oscar Wilde, l'importance d'être constant.
On rappellera jamais assez à quel point il est important, effectivement, d'être dans la cohérence et dans la constance. Merci, en tout cas, Philippe Moreau-Chevrolet, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour l'émission « Et si on en parlait ?». Je rappelle que vous êtes fondateur de MCBG Conseil, agence spécialisée dans le conseil en communication politique, en stratégie d'influence pour les dirigeants. Et on a déjà eu le plaisir de vous inviter, et en tout cas on a eu plaisir à vous entendre, et on espère vous avoir peut-être après les élections, ma foi.
Avec plaisir, avec le plus grand plaisir, une fois que tout sera terminé.
À très bientôt, merci beaucoup Philippe.
Merci Alex.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission d'information en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie d'émission Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et que vous êtes également professeur de communication à la Sorbonne. Une première question sur le sujet qu'on a déjà abordé avec Philippe Moreau-Chevrolet, notre premier invité, sur finalement l'impossibilité d'avoir une vraie campagne compte tenu du climat, de l'actualité internationale qui écrase un peu cette campagne, et puis aussi peut-être, c'était l'analyse de Philippe Moreau-Chevrolet, de la difficulté finalement de l'adversité à exister face au président sortant.
Bon, en fait, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent en tout cas ce sentiment que nous serions dans une drôle de campagne, voire dans une non-campagne. Premier élément, c'est que la réalité, c'est que depuis 2017, in fine, le champ politique a continué à se morceler et n'a pas réussi à se recombiner, laissant finalement les deux grandes marques finalistes de 2017 continuer malgré tout à mener la danse dans cette campagne présidentielle, qu'il s'agisse d'un côté Emmanuel Macron ou de l'autre Marine Le Pen. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, dont il faut bien évidemment tenir compte, c'est une actualité qui est une actualité immédiate, qui a été marquée à la fois par la crise sanitaire, qui a vraisemblablement peut-être anesthésié une partie de l'opinion publique dans sa capacité à s'intéresser à cette consultation présidentielle, et puis évidemment le surgissement inattendu, brutal, brusque de la guerre en Ukraine, qui constitue un contexte qui est évidemment favorable aux sortants, parce que tout simplement c'est un contexte qui, prête à la surprésidentialisation, et évidemment le sortant de ce point de vue-là dispose d'un avantage certain, puisque nous le regardons déjà comme un président de la République depuis 5 ans, ce qui n'est pas le cas évidemment de ses principaux concurrents. Ensuite, un autre élément avec lequel il faut quand même tenir compte, peut-être un peu pour d'une certaine manière corriger ou amodier ce que vous disiez, c'est que les campagnes aujourd'hui électorales et les campagnes présidentielles ne fonctionnent plus comme par le passé. Elles sont beaucoup plus longues que par le passé. C'est-à-dire que, il faut être clair, on est déjà en campagne, en pré-campagne présidentielle, quasiment avant l'été, et bien évidemment à partir de septembre, où tout un ensemble d'enjeux propres à cette campagne présidentielle vont s'imposer. Finalement, savoir quel sera le mode de désignation du candidat républicain, congrès ou pas congrès, primaire ouverte ou pas, quel sera le mode de désignation de la candidate ou du candidat socialiste. Éric Zemmour sera-t-il, oui ou non, candidat. Donc cette campagne, finalement, aujourd'hui, ce sont des campagnes beaucoup plus longues. Et on avait déjà vécu ce phénomène en 2017 également.
Alors, justement, vous dites les campagnes sont longues, surtout pour l'élection présidentielle, qui est l'élection un peu phare et qui va organiser le paysage politique et en tout cas l'imprégner pendant 5 années. Mais le paradoxe, c'est que cette année, on a le sentiment que la campagne n'a jamais vraiment démarré. On a attendu d'abord de savoir qui avait les 500 signatures. Donc il y a eu comme ça des semaines et des semaines de débats avec des candidats qui ne faisaient que parler de cela, de savoir d'appeler les maires à donner les signatures. Et puis après, on a attendu, comme Godot, enfin comme d'autres Godot, la candidature du président de la République. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est venue encore retarder finalement l'entrée en campagne du président de la République. Et là maintenant, c'est ce que disait Philippe Moreau-Chevrolet, on a l'impression vraiment d'une non-campagne. On a l'impression qu'il n'y a pas, c'est pas le sujet qui devrait occuper la vie de la nation comme d'habitude, comme il y a 5 ans ou comme les 5 années auparavant.
Alors peut-être que le fait que le président de la République se déclare tardivement ne constitue pas une nouveauté par rapport à des situations similaires que l'on a connues par le passé. François Mitterrand en 88 se déclare assez tardivement, Valéry Giscard d'Estaing en 81 se déclare assez tardivement, donc c'est le lot de beaucoup de sortants que de sortir du bois véritablement très souvent juste au dernier moment pour tout simplement tactiquement raccourcir le temps de la campagne et ne pas ainsi se surexposer et conserver d'une certaine manière la présidentialité qui est indispensable et qui leur apporterait à leurs yeux un avantage comparatif par rapport à leurs concurrents. Ça, c'est une réalité. Ce qui peut-être aujourd'hui finalement donne le sentiment à tort ou à raison que finalement nous ne sommes pas dans une véritable campagne telle qu'on a pu connaître des campagnes présidentielles par le passé, c'est que la relation avec la politique, la relation avec le système institutionnel de la politique, la relation avec la représentation s'est considérablement distendue ces dernières décennies dans la société française, dans une société qui est très politique, ça a été dit à plusieurs reprises, qui aujourd'hui vit la politique sur un mode déceptif et qui aussi a du mal à rentrer dans cette campagne présidentielle. Quand on regarde par exemple l'intérêt que porte l'opinion publique sur l'élection présidentielle au stade où nous parlons, on voit que cet intérêt est moindre aujourd'hui qu'il ne l'était à d'autres époques au même moment. On voit que par exemple le taux de certitude pour les différentes intentions de vote en fonction des candidats est un taux d'incertitude qui reste encore pour un certain nombre de ces candidats assez bas. Et le taux d'incertitude est par contre assez haut. Donc autant de phénomènes qui quand même traduisent de fait, au-delà de la question de l'élection présidentielle, des problèmes de fond qui sont des problèmes structurels et qui frappent de plein fouet le fonctionnement de la démocratie dans notre pays. D'ailleurs, phénomène finalement de défiance que l'on ne retrouve pas d'ailleurs forcément ailleurs pour des raisons à la fois historiques et institutionnelles.
Alors, ça va même assez loin puisque on a Gérard Larcher, donc qui n'est pas n'importe qui, c'est le président du Sénat, qui dit s'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité se posera. Donc il accuse le président de la République de vouloir enjamber l'élection présidentielle. Est-ce que Gérard Larcher n'est pas un peu en train de scier la branche sur laquelle il est assise et finalement de saper un peu plus la crédibilité des institutions qu'il incarne aussi à sa place, hein. Je rappelle que le président du Sénat, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui, en cas d'empêchement, remplace le président de la République, et c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ve République.
Ouais, parce qu'il dit vaut d'abord pour des élus qui sont extrêmement importants pour le Sénat, ce sont les élus locaux. Je rappelle que les dernières élections municipales, et c'est vrai aussi pour les élections régionales, un peu moins, ont donné lieu à des taux de participation très faibles, alors en raison vraisemblablement, là pour le coup, des conséquences
de la pandémie du Covid,
de la crise sanitaire. Mais enfin, c'est une réalité aussi. Ces élus considèrent-ils qu'ils seraient moins légitimes que finalement des élus qui, par le passé, auraient été finalement porté à la tête d'exécutifs municipaux ou régionaux avec des taux de participation plus importants, c'est une question qu'on pourrait lui retourner.
Mais Arnaud Benedetti, il le sait, Gérard Larcher, ça. Donc pourquoi il dit ça? Parce qu'il est déjà en train d'intérioriser un échec. C'est presque comme s'il était en train de dire.
Est-il en train d'anticiper l'échec de la candidate désignée par les Républicains? C'est une question qu'il faudrait évidemment d'abord lui poser. Mais par contre, il met quand même le doigt sur un sujet, c'est que dans un pays qui souffre d'un déficit qui souffre d'une crise de la représentation, il est clair qu'une campagne présidentielle qui se déroulerait sur le faux rythme qu'on lui connaît aujourd'hui, qui déboucherait sur une élection ou la reconduction d'un président sortant après les différentes crises que l'on a connues, notamment la crise sociale des Gilets jaunes, ne manquerait pas de poser problème pour celui qui sortirait vainqueur de cette élection et pour la façon dont il devra gérer le pays. Parce que on aura quand même accumulé déjà durant 5 ans un certain nombre de frustrations et de ressentiments extrêmement denses. et l'élection présidentielle qui, de fait, un peu comme la guerre de Troie, n'aurait pas eu lieu, renforcerait ce sentiment de sentiment de frustration et parfois de dépossession politique. Donc il y a un vrai sujet qui se pose pour celui qui sera élu, il y a un vrai sujet pour la majorité qui sortira ensuite sur le plan législatif, parce qu'il y a aussi ce sujet tout de suite se poser après l'élection du président de la République. Donc une élection qui se produirait aujourd'hui sans véritable débat, sans véritable polarisation de l'opinion publique et des acteurs politiques, en effet, c'est quand même un sujet démocratique. Et là, de ce point de vue-là, nonobstant la position qui est la sienne, Gérard Larcher met quand même le doigt sur un sujet qui est important. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à mettre le doigt sur ce problème.
Oui, mais est-ce que finalement, Gérard Larcher ne se trompe pas un peu de questions ? C'est-à-dire qu'au lieu d'effectivement de se plaindre du contexte qui est un peu particulier, est-ce que finalement il ne devrait pas aller au bout de la logique et reconnaître qu'il y a un déficit démocratique au sein même des institutions de la Ve République, puisque le drame de cette Ve République corrigée avec le quinquennat et l'inversion du calendrier et donc l'alignement derrière des élections législatives, c'est qu'on sait très bien que, eh bien, probablement le président élu aura ensuite les pleins pouvoirs et une assemblée à sa solde avec très peu de diversité politique et donc très peu de possibilités aussi pour les oppositions de se faire entendre au sein des institutions.
Le problème institutionnel que vous soulevez renforce d'une certaine façon la défiance. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des segments importants de l'opinion publique qui ne se sentent plus représentés, qui considèrent que la façon dont, par exemple, l'Assemblée nationale représente le peuple ne correspond pas à la diversité, vous l'avez dit, des courants politiques de la société française. Ça, c'est une réalité qui a d'ailleurs été, depuis de très nombreuses années, mise en exergue par à la fois un certain nombre d'acteurs politiques et d'observateurs et de commentateurs. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais le problème n'est pas seulement un problème institutionnel, c'est aussi un problème peut-être d'offre politique, pour employer une terminologie économique, c'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens ne se retrouvent plus dans les modes de représentation politique. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle n'a pas monté, elle ne se caractérise pas par un rejet finalement de la politique, c'est plutôt une demande de politique que la crise des Gilets jaunes a d'une certaine manière exprimée, une demande de politique qui s'est faite en dehors des corps intermédiaires. Donc ça veut dire que le problème n'est pas seulement, il est en partie institutionnel, il n'est pas seulement institutionnel, il est aussi, j'allais dire, il relève presque finalement des projets politiques qui sont aujourd'hui proposés aux Françaises et aux Français et qui ne rencontrent pas manifestement l'assentiment de la majorité des Français. Parce que si l'on fait le calcul finalement entre ceux qui ne vont pas voter, ceux qui se réfugient dans des votes qui sont des votes soit contestataires, soit protestataires, soit extrémistes, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une majorité de Françaises et de Français qui ne se retrouvent plus dans le fonctionnement en effet démocratique du pays. Est-ce que c'est seulement pour des raisons institutionnelles ? Oui, en partie, mais pas seulement.
Mais est-ce à dire qu'en fonction de la configuration du deuxième tour, on pourrait avoir, y compris à l'élection présidentielle, le premier parti de France qui serait les abstentionnistes ?
C'est une probabilité qu'il ne faut pas exclure, car si l'on regarde finalement la tendance, c'est-à-dire les trends de ces 15 dernières années, et notamment de ce quinquennat, alors encore une fois un quinquennat qui a été frappé par des événements tout à fait exceptionnels, on se rend compte que de toute façon, qu'il s'agisse des élections municipales, ou qui sont des élections où il y a d'ailleurs en règle générale plutôt une bonne mobilisation.
Une plus forte mobilisation, c'est après les présidentielles, c'est l'élection qui mobilise le plus.
Bien sûr, c'est l'élection qui mobilise le plus, évidemment, après la présidentielle. Et les élections régionales qui mobilisent beaucoup moins, mais enfin, on constate que le parti majoritaire durant ce quinquennat, ça a été le parti de l'abstention. Donc il va falloir quand même regarder ce qui se passe du côté de la participation. Et d'ailleurs, une des clés de ce scrutin, un des paramètres essentiels de ce scrutin, ça sera le niveau de participation. Parce que le niveau de participation peut, en tout cas, faire bouger en partie le rapport de force On sait très bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron profite d'une certaine manière d'une forte mobilisation de son électorat, mais aussi d'une forte démobilisation d'un électorat qui sociologiquement pourrait voter contre lui, mais ne se trouve pas aujourd'hui une offre politique susceptible, en tout cas, de rencontrer ses aspirations. Et il profite évidemment d'une autre caractéristique du champ politique qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est bien évidemment la balkanisation et le morcellement de ce champ politique, les divisions, l'archipélisation du champ politique.
Merci Arnaud Benedetti. Merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Nous avons effectivement, non pas fait le tour de la question, mais largement analysé cette drôle de campagne, cette non-campagne pour certains experts et commentateurs. Et on aura l'occasion avec vous, Arnaud, de continuer à analyser, et notamment après les élections présidentielles, dont je rappelle que le premier tour a lieu dans moins de 4 semaines maintenant. Merci Arnaud, à très bientôt.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.